Vous écoutez du Trisac. Cube Radio.
Antoine Joubert est avec nous, chroniqueur automobile pour le Guide de l'auto. Monsieur Joubert, bonjour.
Salut, on s'en sort pas, hein? La F1 puis les filles, les stéréotypes sont là tout le temps.
Ils sont là, mais c'est pas, ça tombe pas du ciel, Antoine. Là. Longtemps, non. On a présenté, même dans les salons de l'auto, le char avec la pitoune couchée sur le capot. Là.
Mais ça fait... Honnêtement, là, j'ai connu ça encore un peu au début de ma carrière, il y a 20 ans. Ça n'existe plus aujourd'hui, ça. Tu peux plus faire ça.
Ben, c'est inacceptable.
Si tu vas dans des shows américains, locaux, où c'est des shows de voitures modifiées, pis nanana, t'en vois encore, un peu.
Ah oui.
Mais c'est les filles qui jouent ces cartes-là. C'est pas des gars qui vont les engager. Tu pourrais plus faire ça jamais.
Oh.
Il fut une époque où c'était monnaie courante, c'est vrai. Ouais. Mais c'est une époque que j'ai même pas connue.
Mais il y a des crapules partout là qui saisissent toutes les occasions pour essayer de pimper des femmes et des filles. Fait que ça là-dessus, on va aller fouiller puis on en reparlera.
Le lien avec le monde automobile, j'ai de la misère parce que je sais comment ça marche dans l'industrie aujourd'hui, puis je sais que il n'y a plus personne dans ce milieu-là qui oserait jouer cette carte-là.
Pour la simple et bonne raison que la moitié des consommateurs d'automobiles, c'est des femmes. Puis elles endureraient pas ça.
Plus de la moitié.
Ah oui, hein?
Plus de la moitié.
Ouais.
En fait, les femmes sont majoritaires dans la décision d'achat d'un véhicule. Parce que il y a bien des gars qui veulent avoir un véhicule, mais c'est la femme qui décide. C'est une autre affaire.
Bon, ça, c'est une autre chronique. Là, tu veux revenir sur l'importance d'avoir de bons pneus d'hiver.
Ben, écoute, je veux juste te faire une anecdote parce qu'hier, je revenais d'un petit périple en Ontario et j'étais dans l'ouest de l'île de Montréal sur un feu rouge et il y a une voiture qui a freiné à côté de moi, qui a glissé et qui a foncé dans la voiture en avant d'elle. Et tout de suite, j'étais au feu rouge à côté. Et tout de suite, j'ai eu le réflexe de me tasser un peu, de regarder le véhicule pour rapidement constater que ce véhicule-là avait peut-être des pneus d'hiver, mais fini raide.
Mmh.
Des pneus usés à la corde. C'était bel et bien des pneus d'hiver, mais qui passaient certainement plus les normes. Puis, il y a des gens qui ne changent pas leurs pneus. Il y a d'autres gens qui disent, bon, on va mettre n'importe quoi. Tant que c'est un pneu d'hiver, je me ferai pas achaler. Mais ça donne ce que ça donne.
Mmh.
L'hiver, un pneu d'hiver de bonne qualité, c'est important pour des distances de freinage, pour la sécurité, pour la maniabilité du véhicule, pour tout ce que vous connaissez. Puis de mettre des pneus d'hiver qui sont usés à la corde ou qui sont juste passables, c'est pas mieux. Il n'y a rien de plus important sur une voiture que des pneus d'hiver et que des bons pneus, peu importe la saison.
Mmh.
Et ce qui m'enrage dans une situation comme celle-là, c'est que souvent, bon, évidemment, là, ça n'a pas été un gros accident, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu rien. Mais s'il y avait eu des blessés, s'il y avait eu des problèmes plus graves, qu'est-ce qu'on aurait lu dans les médias? Ah ben l'alcool ou la vitesse pourrait être en cause.
Ouais.
C'est jamais l'auto. C'est jamais le fait
les
que
pneus.
Le propriétaire du véhicule a négligé l'entretien de son véhicule.
Ouais.
C'est toujours la vitesse est en cause. Le gars roulait à une vitesse normale, c'est juste qu'il est venu pour freiner, puis ça n'a pas freiné adéquatement parce que ses pneus sont finis. Fait que tu sais, on a une loi au Québec, elle n'existe toujours pas en Ontario d'ailleurs, puis les véhicules que je suis allé conduire hier en Ontario n'étaient pas chaussés de pneus d'hiver et il y avait une différence flagrante. Il faisait froid hier.
Mm-hmm.
On était dans le nord de l'Ontario, puis je peux te dire que des pneus 4 saisons là, de 20 pouces sur un Jeep flambant neuf, ça marche pas. Un pneu d'hiver, ça change complètement la donne.
Ah oui, hein?
Les gens ont de la misère à comprendre ça des fois. Je voulais juste rappeler aux gens que la loi, bon, OK, il y a eu une opération policière hier, on a remis une quarantaine de contraventions pour des gens qui n'avaient pas leur pneu d'hiver ou qui avaient des pneus, justement, qui n'étaient pas en bonne condition. C'est correct. Je pense pas qu'il faut s'attendre à ce que la police multiplie les opérations de ce genre-là, parce que c'est jamais aussi payant que de donner des contraventions pour la vitesse, là.
Mm-hmm.
Puis c'est facile à contester, puis bon, là. Mais je pense que c'est important de conscientiser les gens. C'est certainement pas la SAC qui va faire ça, mais moi je pense que c'est une bonne idée de juste rappeler aux gens que la loi est pas là pour rien. Elle est une loi qui est logique, qui est bénéfique, puis mettre des bons pneus sur un véhicule, le véhicule va mieux, le véhicule consomme moins, le véhicule a un meilleur comportement et plus sécuritaire, ça change complètement la donne.
Mais as-tu l'impression, Antoine, qu'au Québec, le message est passé là sur la qualité des pneus d'hiver, puisqu'on on sait c'est quoi un hiver, puis on connaît le danger?
Ben, c'est-à-dire que écoute, oui, il y a des gens qui sont conscientisés, il y a des gens qui commencent à comprendre que de payer pour un pneu de un peu meilleure qualité, ça vaut la peine. Puis je te dirais que là, avec le tournant du marché automobile, puis avec le fait que les gens paient beaucoup plus cher pour leur véhicule et décident donc de les garder un peu plus longtemps, bien, choisissent de peut-être investir un peu plus dans leurs achats de pneus. Puis de toute façon, des pneus super bon marché, on va en voir de moins en moins parce que le coût d'importation de ces pneus bon marché-là a explosé. Et au final, ben c'est pas si alléchant que ça. Fait que de passer à un pneu de qualité très correct versus un pneu de qualité d'entrée de gamme, ben c'est l'écart est moins grand qu'avant. Mais de toute façon, juste d'avoir 4 pneus d'hiver neufs sur votre véhicule, c'est déjà beaucoup mieux que certaines personnes qui étirent un pneu off. Je vais l'étirer encore cette année un peu. Ouais. Là, ça devrait être pas pire, puis ça se peut que je change mon auto à la fin de la saison. Ils sont finis, tes pneus. Mmh. Fait que, tu sais, ça change.
Est-ce que tu peux acheter... Est-ce qu'il y a moyen d'acheter des bons pneus d'hiver usagés?
Absolument. Absolument.
Tu trouves ça où?
C'est délicat de le faire, par exemple, parce que évidemment, t'as des annonces sur Kijiji, sur Marketplace, partout. T'as des gens qui se spécialisent dans la vente de pneus d'occasion. Si tu l'achètes d'un commerçant, bon, lui se doit de te donner un pneu qui est en bonne condition. Le problème, c'est que tu peux acheter un pneu qui est mal usé ou qui a une structure altérée. Ouais. Et ça, tu le vois pas visuellement. Il
ouais.
faut que tu sois quand même assez expert pour acheter un pneu d'occasion puis savoir qu'il est usé de la bonne façon. Mais oui, acheter un pneu usagé, il y a beaucoup de gens qui vont le faire. Puis même que j'encourage les gens à faire ça plutôt que d'étirer un pneu qui est là. Puis si ça rentre pas dans le budget, allez-y, là, c'est ouais. sûr.
Un pneu, c'est pas un élastique, hein? Il y a des limites. Écoute, à étirer ça.
Il y a des agences de location de voitures à court terme, là, du côté de l'Ontario, parce qu'au Québec, il y a une loi. Mais en Ontario, tu vas te louer une voiture de location pour 72 heures, puis on te charge un extra si tu veux des pneus d'hiver.
Ah oui. Bon. Mais l'extra vaut la peine quand même.
Oui, c'est ouais. ça.
Le Jeep Grand Cherokee qui s'en vient avec une prise électrique.
Ben, en fait, écoute, c'est parce que juste hier, moi, je suis allé essayer la nouvelle génération du Grand Cherokee en Ontario. Alors, je revenais de là et j'ai été un petit peu abasourdi parce que, bon, évidemment, on attend avec beaucoup d'impatience l'arrivée du Grand Cherokee 4XE, qui sera un hybride rechargeable, qui va utiliser la même technologie que le Wrangler. Il était pas sur place. Ils vont l'amener un peu plus tard sur le marché. Mais il y avait des représentants de Jeep américains qui venaient de Détroit, qui étaient là pour nous présenter le véhicule. Et moi, j'ai pris le volant d'un Grand Cherokee loadé au bouchon de 86 000 piastres avec un V8 MI avec lequel j'ai fait 17,7 litres aux 100 km. Puis c'est le véhicule qu'on nous présentait, le nouveau modèle, la nouvelle génération. Et là, je me suis mis à discuter avec les gens de Jeep là-bas pour leur expliquer que de vendre un moteur comme ça dans un Grand Cherokee en 2022, je ne sais pas sur quelle planète ils vivent, là, mais c'est un véhicule qui a aucune chance de succès.
Mm.
Alors j'ai fait, mais on attend de pied ferme le 4XE et la réaction a été géniale parce que j'ai vu dans leurs yeux que, ben oui, OK, nous autres, on le fait parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut rencontrer les normes. Je pensais pas qu'il y avait du monde qui s'intéressait vraiment à ça. Mmh. C'est presque ça là, qui nous donnait comme réponse. C'est évident que le jour où ils arrivent ici avec ça, ils vont en vendre en claquant des doigts. Même si le prix est élevé, même si... parce que
dépendamment de l'autonomie, Antoine aussi. Là.
Ah, mais même si... l'autonomie va être de 40, 45, 50 km en mode 100% électrique, puis après ça, tu tombes en mode hybride. Mais tu vas quand même avoir un Grand Cherokee de 375 chevaux qui va rouler à 7 litres au 100, passer ton mode 100% électrique, mettons, versus un modèle à moteur V6 qui va faire 12,5, puis modèle à moteur V8 qui va faire 17. Fait que c'est sûr qu'il y a une grosse majorité de clientèle qui va se garancher là-dessus. Puis comme il va y avoir des crédits gouvernementaux applicables, ben il va revenir... au même prix ou même moins cher qu'un modèle régulier. Mmh. Alors, c'est sûr que c'est super attendu. C'est un camion qui est exceptionnel. Là, franchement, ils ont fait un beau travail, mais le moteur V8 là-dedans, en 2022, j'ai fait, écoute, là, il y a personne d'autre dans ce segment-là, d'ailleurs, qui propose un moteur V8. Eux autres, ils reviennent avec cette mécanique-là qu'on connaît depuis toujours. Puis, elle n'est pas plus économique qu'elle était il y a 10 ans. C'est faut le faire.
C'est du monde qui joue du banjo sur une galerie dans le sud des États-Unis, ça. Et ils voient pas ce qui arrive.
Il y a des endroits aux États-Unis où il est là, le marché. Puis moi, je leur ai posé la question. Au Canada, vous pensez vendre ça à hauteur de quoi comme pourcentage par rapport à votre moteur V6, mm-hmm. par rapport à votre hybride rechargeable? Puis, au Canada, ils m'ont répondu, on pense pas en vendre bien plus que 5 %. Aux États-Unis, 30-35%.
Ah oui.
Tu vois,
un autre marché, hein?
C'est complètement différent.
Ouais. OK, rapidement, 30 secondes, Antoine. La Cadillac?
ELR, oui. C'est juste que j'ai eu la chance, la semaine dernière, de conduire cette Cadillac-là, qui est un modèle 2014. Et ça m'a donné un coup en plein front pour découvrir à quel point GM est arrivé au début des années 2010 avec une hybride rechargeable. En fait, on utilisait la même technologie que la Volt, là. Mais dans une voiture qu'on vendait 85 000 $ en 2014, qu'on a fabriquée à moins de 3 000 unités et qu'on a éliminé même pas 3 ans après qu'on l'a introduit. Ouais. C'est le pire fiasco que GM a fait. Puis ça, c'était la réplique de Cadillac à Tesla. On a donné le goût de production de ce véhicule-là le jour où on a su que Tesla débarquait avec la Model S. Puis Cadillac a lancé ça. Et là, moi, je me suis retrouvé avec cette voiture-là entre les mains qui est complètement dépassée technologiquement, qui a absolument pas d'allure, qui a perdu 50 % de son autonomie. Hey, on l'avait, mais vraiment pas. Mmh. Puis j'ai trouvé ça drôle comme parallèle parce qu'on va lancer dans quelques semaines le Cadillac Lyriq, 100% électrique, plus de 400 km d'autonomie, complètement actuel au niveau de la technologie, ça va être absolument génial. Et ce véhicule-là va coûter moins cher que cette Cadillac-là qu'on vendait il y a 10 ans pour tenter de répliquer à Tesla. Fait que c'est de voir à quel point GM a mis du temps à réagir, mais là, on revient en force pour répliquer avec le marché de l'électrique. Mais il y a 10 ans, là, on n'était pas là, puis on l'a fait parce qu'il fallait le faire. C'est tout. C'est vraiment. C'est un clash épouvantable.
Bon, ben parfait. Et écoute, Antoine Joubert du Guide de l'Auto, merci. On se reparle la semaine prochaine.
Plaisir, bye bye.